Bonjour à tous. La mort, on l'apprend à l'instant, de Jacqueline Sauvage, devenue le symbole des violences conjugales, battue pendant 47 ans. Elle avait tué son mari de 3 coups de fusil. Une propagation en toute discrétion, mais une propagation quand même. Les jeunes, facteurs de contamination, on l'a vu en Bretagne lors de soirées festives. On le voit dans les chiffres au niveau national. La Covid-19 et les ravages pour le tourisme en Espagne, que les voisins européens déconseillent comme destination de vacances. L'épidémie cause aussi d'une flambée des prix des fruits et légumes. Dans l'actualité du jour également, dernier conseil des ministres avant la trêve, nous serons en direct de l'Elysée. Les punaises de lit causent de 70 000 consultations chez les généralistes cette année. Michelle Obama en podcast, après la biographie, la tournée, la marque Obama continue de plaire. La météo, le soleil est bien là, Sébastien Léas.
Oui, soleil et température chaude pour aujourd'hui avec des maximales variant entre 25 et 34 degrés jusqu'à 37 degrés autour de la Méditerranée et 20 à 26 degrés sur le nord-ouest. Prévoyez quand même quelques averses localement orageuses en montagne et puis la chaleur va s'intensifier à partir de demain. On attend d'ailleurs un pic de chaleur bref mais très intense.
Météo complète à la fin de ce journal. Vous retrouverez ensuite Élodie Font pour Chacun sa route jusqu'à 15h.
France Inter.
Elle avait été érigée, bien malgré elle, en symbole des victimes de violences conjugales. La mort, on vient de l'apprendre, de Jacqueline Sauvage, à l'âge de 72 ans, décédée jeudi dernier, inhumée en toute discrétion hier. Cette mère de famille, battue par son mari pendant 47 ans et qu'il avait tué de 3 coups de fusil dans le dos, incarnée par Muriel Robin dans le téléfilm « C'était lui ou moi », vu par 7,5 millions de téléspectateurs. Pour ses procès, les vrais, Jacqueline Sauvage avait pour avocate maître Nathalie Tomasini.
Elle est partie avec la paix en elle, je l'espère en tout cas. Par son histoire, elle a réussi à mobiliser toutes les femmes, elle a éveillé les consciences. Son parcours a permis à la société française de comprendre, d'imaginer ce que pouvait être une vie émaillée de violences. La France entière a été bouleversée par cette femme qui a cristallisé toutes les souffrances des victimes de violences intrafamiliales. Alors aujourd'hui, elle nous quitte dans un souffle sans bruit, alors que sa résistance a mobilisé tout un pays et dans un chaos retentissant. Et c'est tout le paradoxe. Et je suis très très touchée par cette disparition.
Nathalie Tomasini, avocate de Jacqueline Sauvage, jointe par Jean-Philippe Degnaud. Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre de son mari à 2 reprises à 10 ans de réclusion et dont les fils étaient mobilisés pour obtenir sa grâce, finalement accordée par le président de la République, François Hollande. Écoutez Jacqueline Sauvage à sa sortie de prison, c'était le 6 janvier 2017 sur le plateau de France 2.
La gradée, elle m'a dit vous n'avez pas entendu, Madame Sauvage, ce qu'on vient d'annoncer? Bah, je dis non, du tout. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous êtes libre. Oh, je dis libre? Je dis tout de suite. Elle me dit oui. Elle me dit c'est tout de suite. Oh, alors là, je ne savais plus. Là, c'est là que j'ai levé les bras au ciel et j'ai dit merci. Je remercie beaucoup Monsieur Hollande parce que Monsieur Hollande a écouté mes filles et vraiment, c'est un homme humble. Enfin, voilà.
Jacqueline Sauvage, dont on a donc appris le décès aujourd'hui, il est survenu la semaine dernière. Des tests de dépistage, oui, mais encore faut-il pouvoir les faire dans les régions où la hausse du nombre de cas est la plus importante. Les labos sont tout simplement débordés, exemple dans le Morbihan, où après une série de fêtes à Quiberon, de nombreux jeunes ont été contaminés et beaucoup d'autres souhaitent se faire tester. Reportage France Bleu Armorique de Diane Sprimont.
Le téléphone sonne depuis 6 heures du matin. Sur la liste des tests du jour, Margot et sa mère, le petit copain et une amie de Margot, sont positifs après être sortis dans les bars à Quiberon.
Je demanderai de vous asseoir sur la chaise blanche.
C'est plus une précaution parce que je vais voir ma famille, mes grands-parents, etc. J'ai pas envie de les contaminer, ça pourrait les mettre en danger. Surtout que j'ai une amie, là, elle a été mise en réanimation à Vannes.
Une inquiétude qui engendre un afflux énorme dans ce centre. Gaëlle Azledu est infirmière libérale dans le centre.
On est obligé vraiment de refuser un grand nombre de personnes, au moins une trentaine de personnes par jour. Donc non, on va être obligé de trier et tout le monde ne va pas pouvoir être effectivement testé.
Il y a jusqu'à 3 jours d'attente pour un dépistage ici et du côté des labos, ça se complique aussi.
Parce qu'apparemment, ils n'ont pas la capacité à enregistrer, la capacité administrative et après à techniquer au-delà d'un certain nombre de prélèvements.
Le laboratoire a demandé à la maison de santé Doré de passer de 20 tests par jour à 10. Mais Gaëlle espère bien que des moyens moyens seront débloqués pour continuer à tester au moins 20 personnes par jour.
On vient de l'entendre, beaucoup de jeunes positifs au coronavirus dans le Morbihan notamment. Période estivale, retrouvailles et soirées ne font pas vraiment bon ménage avec le respect des règles sanitaires. Alors le ministre de la Santé, invité de LCI, alerte. Certes, pas de deuxième vague à ce stade, mais il ne faut pas relâcher les efforts si on veut l'éviter. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Et pour cela, la vigilance reste de mise pour les personnes âgées, bien sûr, première victime, on le sait, de la pandémie. Mais le ministre de la Santé met aussi en garde les jeunes.
Oui, car depuis la fin du mois de juin, Santé publique France, l'agence en charge de la surveillance de l'épidémie, note que ce sont chez les 15-44 ans que les cas confirmés augmentent le plus. Est-ce que cela s'explique par un dépistage plus intensif? C'était vrai il y a quelques semaines. Cela ne l'est plus aujourd'hui. La semaine dernière, par exemple, le nombre de cas positifs a augmenté de 27%, alors que le nombre de tests n'a lui progressé que de 3%. Une population jeune qui reste majoritairement asymptomatique ou en tout cas peu concernée par les formes sévères de la maladie. Sur les 2700 personnes actuellement hospitalisées, 104 ont moins de 30 ans. En fait, le danger, c'est la propagation silencieuse et que ces jeunes contaminent sans le savoir les personnes les plus fragiles. Et ce qui inquiète particulièrement les autorités sanitaires, c'est que depuis la semaine dernière, les contaminations augmentent à nouveau chez les plus de 75 ans. Santé publique France le rappelle, les gestes barrières qui semblent être négligés pendant ces vacances, ce n'est pas uniquement pour se protéger soi, c'est aussi et surtout pour protéger les plus fragiles.
La hausse du nombre de cas, merci Hélène Chevalier, c'est aussi vrai en Espagne, particulièrement vrai en Espagne, devenu ces jours-ci le pays pointé du doigt par ses voisins européens. Allemagne, France, Belgique ont ainsi déconseillé à leurs habitants d'aller en vacances en Aragon ou en Catalogne. Le Royaume-Uni est plus strict encore. Et à Madrid, Marie-Hélène Ballestero, on oscille entre colère face à ces mesures jugées injustes et grandes inquiétudes pour le secteur touristique.
Habitué aux déferlantes de touristes étrangers, la Puerta del Sol est méconnaissable ces derniers temps. Carlos est l'un des quatre kiosquiers de cette célèbre place. Il est en colère surtout contre le Royaume-Uni et sa décision d'imposer une quarantaine à toute personne revenant d'Espagne.
Il n'y a pas de touristes et en Espagne, les gens ne bougent pas non plus. Bref, c'est une horreur. De toute façon, Madrid est l'un des endroits où les gens se comportent le mieux. Je ne comprends donc pas la position des pays européens vis-à-vis de l'Espagne. Concrètement, au Royaume-Uni, la situation est bien pire qu'ici. Je pense que c'est toute une année perdue et on verra comment ça évolue.
Hier, la porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, a réaffirmé que l'Espagne est une destination sûre, qui s'est préparée et renforcée pour faire face au virus. Mais pour l'instant, les touristes étrangers sont aux abonnés absents. Dans le centre de Madrid, de nombreux magasins restent fermés, comme les boutiques de souvenirs. José Luis est l'un des seuls à ne pas avoir baissé le rideau sur la Plaza Mayor, mais pour combien de temps?
Une hécatombe, un désastre, une horreur, il n'y a pas de mots, il n'y a qu'à regarder. Sans touristes, on ne peut rien faire. Je vais peut-être fermer et rouvrir plus tard, car je ne vends rien. Ce n'est pas du tout rentable, je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Beaucoup de magasins ne vont plus rouvrir. Les mois à venir seront décisifs.
Entre colère et abattement, l'Espagne attend impatiemment le retour des touristes. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
En France, les entreprises touristiques pourront bénéficier du dispositif de chômage partiel jusqu'en décembre, selon le gouvernement, afin de tenter de limiter la casse dans ce secteur qui représente quelque 2 millions d'emplois. Ce n'est plus une augmentation, mais une véritable flambée des prix des pêches, cerises, poires et autres nectarines. 17% de hausse de prix sur les fruits, 4% sur les légumes, selon le baromètre publié chaque année par l'association Famille Rurale. En cause, l'épidémie de Covid-19, elle encore, qui a rendu difficile la venue de la main-d'œuvre étrangère, l'acheminement des produits ou encore leur récolte eu égard aux mesures barrières. Résultat, pour certaines familles, Manuel Ruffez, manger 5 fruits et légumes par jour est devenu un luxe.
Tous les ans, au mois de juin, l'Observatoire des prix de Famille Rurale procède de la même manière, même méthode, même produit, même liste. Mais cette année est hors norme, les prix ont explosé. Avec de telles augmentations pour une famille à faible revenu, comment consommer équilibré, s'interroge son président Dominique Marmier.
C'est quasiment devenu impossible pour certaines familles. Consommer 5 fruits et légumes, ça coûte entre 144 euros si j'arrive à trouver les fruits et légumes les moins chers, mais jusqu'à 259 euros par mois pour une famille de 4 personnes. Donc c'est quand même considérable. Donc on voit bien que c'est quasi impossible pour une famille modeste de suivre le plan national nutrition santé en fruits et légumes.
La crise sanitaire est passée par là, elle a entraîné des coûts supplémentaires, mais ce n'est pas tout, explique Daniel Sauvêtre de l'interprofession fruits et légumes. En juin, pour cause de météo, l'offre était particulièrement faible.
On a eu un contexte en Europe quand même tout à fait particulier cette année, puisque depuis 2003, on n'a pas eu une offre aussi faible de la part des producteurs pour les fruits l'été. Donc, inévitablement, quand l'offre est plus faible que la demande, on a des prix soutenus.
L'interprofession affirme donc aujourd'hui que cet épisode de prix élevé est derrière nous et qu'au contraire, les producteurs en ce moment ont bien du mal à écouler à des prix corrects leurs salades et leurs tomates.
En ces temps de crise économique aussi, c'est une allocation de rentrée scolaire majorée cette année pour les 3 millions de familles qui en bénéficient. 100 euros supplémentaires seront versés le 18 août prochain. Mais avant la rentrée, l'heure est plutôt aux vacances. C'est le cas pour le gouvernement, notamment dernier conseil des ministres ce matin. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
En direct du palais de l'Élysée où le gouvernement vient tout juste de sortir.
Oui, ils étaient 42 autour d'Emmanuel Macron ce matin, ministre délégué et exceptionnellement tous les secrétaires d'État fraîchement nommés. Un nouvel exécutif qui a posé il y a quelques minutes côté jardin pour la traditionnelle photo de famille. Covid oblige avec un mètre de distance entre chaque membre du gouvernement. Gouvernement officiellement en vacances, donc Emmanuel Macron n'a ce midi plus rien à son agenda. Il devrait partir à Brégançon d'ici la fin de semaine pour une pause au moins jusqu'au 17 août et la commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas en vacances, mais sur le qui-vive avec la crise sanitaire toujours en cours. Les ministres sont d'ailleurs plusieurs à retourner sur le terrain cet après-midi. Gérald Darmanin à Douaumont ou Olivier Véran dans les Yvelines. Sommet de ne pas trop s'éloigner ces prochaines semaines avant un retour officiel aux affaires le 24 août, date du prochain Conseil des ministres.
Élodie Forêt en direct de l'Élysée avec les moyens techniques de Yves Le Horse. L'Élysée dont les comptes sont excédentaires, un peu plus d'un million d'euros selon le rapport annuel de la Cour des comptes. Excédent notamment dû à la baisse de 3% des dépenses de services.
France Inter, le journal de 13h, Charlotte Piret.
Plus de 70 000 consultations en un an. Cette fois, il n'est pas question de la Covid-19, mais des punaises de lit, selon les chiffres du ministère de la Santé. Ces parasites qui démangent de plus en plus de Français en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA ou dans le Grand Est principalement. Ils consultent leur généraliste pour des lésions cutanées, mais aussi, Thibault Lefebvre, pour la dégradation de leur santé psychologique.
Elle ne vit plus au milieu des punaises de lit depuis un peu plus de 2 semaines. Et pourtant, Marie se gratte encore.
Peut-être que je me gratte par... Je sais pas, réflexe là, il n'y a pas forcément de réponse à votre question.
C'est le fait de parler de punaises.
Peut-être.
Juste après le confinement, cette étudiante en droit s'installe dans un studio dans le 19e arrondissement de Paris. Elle vit alors un enfer pendant près de 2 mois avant d'être contrainte de déménager.
Ça nous gratte de partout. On a tendance à un peu se réveiller aussi dans la nuit pour regarder si éventuellement on n'en verrait pas une. Parce que c'est vrai qu'elles apparaissent plutôt la nuit. En ce moment, je ne dors pas très bien encore. J'ai l'impression que je me gratte de partout alors que j'ai pas forcément de piqûres, quoi. Ça rend dingue à la fin.
Des symptômes psychologiques et physiques donc qui touchent environ un tiers de la vingtaine de patients de Jeanne Perroma. Elle est infirmière libérale dans le nord-est de Paris et avec plusieurs de ses collègues, elle a mis en place un protocole de soins pour éviter la propagation des punaises de lit.
C'est un vrai fléau pour nous. On se protège du coup les pieds et on se met des répulsifs. On essaye de ne pas poser nos affaires chez le patient pour éviter la transmission de patient en patient.
Et Jeanne Perroma insiste, les punaises de lit ne choisissent pas leur cible. Elles touchent tout type de patients, indépendamment de leur milieu social ou de l'insalubrité de leur logement.
Et pour toute information sur les punaises de lit, un numéro vert dédié, le 0806 706 806 ou le site internet stop-punaises.gouv.fr. Le chauffeur d'un poids lourd en garde à vue depuis hier à Lens, c'est lui qui, en perdant le contrôle de son véhicule, a causé le terrible accident dans lequel 4 enfants de 9 à 13 ans sont morts brûlés hier. La conductrice de la voiture et mère de l'un d'eux est toujours hospitalisée dans un état grave. Les réseaux sociaux turcs sous surveillance. En 5 mois après l'appel du président Erdogan à mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux, le Parlement vient d'adopter une loi pour le moins controversée qui prévoit notamment l'obligation pour Twitter ou Facebook par exemple de retirer certains contenus si les tribunaux leur en font la demande. À Istanbul, les explications sur cette loi de Julie Honoré.
Elle indique que les plateformes qui ont plus d'un million d'utilisateurs, ce qui est le cas par exemple de Facebook, Twitter ou YouTube, doivent avoir un représentant légal en Turquie. Ces dernières auront également 48 heures pour retirer du contenu offensant sous peine d'une grosse amende. Et les plateformes doivent tenir des registres précis sur les données de leurs utilisateurs. Si les réseaux sociaux s'opposent à ces règles, leur bande passante, soit leur vitesse de transmission, pourrait être réduite de 50 voire de 90%. Selon le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, qui a voté cette loi, elle vise à mettre fin aux insultes en ligne. Mais les associations dénoncent une grave entorse à la liberté d'expression. L'ONG Amnesty International a par exemple dénoncé une loi qui renforce les capacités du gouvernement à censurer les contenus numériques. La loi pourrait aussi aggraver la situation déjà tendue en Turquie. De nombreux internautes ont déjà été poursuivis pour de simples retweets ou des likes sur les réseaux sociaux. Istanbul, Julie Honoré, France Inter.
C'est l'un des podcasts les plus attendus de l'année, diffusé sur la plateforme Spotify. Aujourd'hui, dans le monde entier, The Michelle Obama Podcast. Tout un programme, et au programme justement des entretiens menés par l'ancienne première dame des États-Unis avec ses proches, au premier rang desquels Julien Baldacchino, Barack, of course.
Hi, this is Michelle Obama. The people who know me know that I'm...
Avec l'ancien président Barack Obama en premier invité ce mercredi, Spotify s'assure un beau coup de pub. La plateforme de streaming a obtenu l'exclusivité de la diffusion du Michelle Obama podcast pour un montant inconnu, mais la firme est réputée pour ne pas lésiner sur les moyens. Depuis leur départ de la Maison Blanche en 2017, les Obama sont devenus une marque qui fait vendre. Le livre de Michelle, intitulé Become, est sorti en 2018 et le plus gros succès d'édition pour un livre de mémoire, plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le contrat d'édition pour ce livre et celui de Barack Obama, pas encore sorti, se chiffre à 65 millions de dollars. Ce n'est pas tout, les Obama sont aussi producteurs de films. Leur société de production a conclu un accord avec Netflix. Là encore, le montant reste secret, mais les films documentaires produits par le couple cartonnent. Le premier d'entre eux, American Factory, a obtenu un Oscar cette année. Grâce à cette hyperactivité, les Obama restent omniprésents présent sur la scène médiatique américaine sans jamais vraiment refaire de politique. C'est en montrant leur vision de la société qu'ils s'opposent à l'Amérique vue par Donald Trump.
I hope you'll join me for the Michelle Obama podcast.
Et comment le couple Obama est devenu une marque, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr. Si vous n'êtes pas dans votre cuisine, votre salon ou votre voiture, peut-être êtes-vous en train de nous écouter sur la radio de votre camping-car. Car vous êtes très nombreux cette année à avoir choisi ce mode de vacances, parfait en ces temps de crise sanitaire. Si bien que les locations, mais aussi les achats de camping-cars ou fourgons aménagés ont explosé cette année. Exemple chez un concessionnaire de Metz avec Marc Bertrand de France Bleu.
Joël et Isabelle ont le sourire jusqu'aux oreilles. Leur coup de cœur, c'est un petit modèle, 6,50 m, du classique.
C'est le tout premier. En fait, c'est pas un camping-car, c'est un fourgon aménagé. C'est plus facile de stationner un fourgon qu'un camping-car. Normalement, fin de semaine, on devrait pouvoir partir en vacances.
Le couple de quinquagénaires part en Bretagne. Avec le coronavirus toujours présent, le camping-car, ça rassure.
On aura quand même beaucoup moins de risques de contracter cette cochonnerie, on va dire. C'est comme si, on déplaçait notre maison, quoi. Il n'y a que nous qui avons accès. On limite quand même les risques d'apporter le virus, quoi.
Et le fourgon aménagé, c'est un peu le produit tendance depuis le déconfinement dans cette concession. Alors, est-ce qu'on peut voir ?
J'en ai plus.
Le vendeur, Nicolas Gigeur.
J'en ai plus du tout. Justement, victime de son succès, on en avait pourtant pas mal en début de saison dans notre showroom. Tout a été vendu.
La concession a vendu plus de 30 camping-cars depuis début juin, contre 6 à la même époque l'an dernier.
Énormément de primo-accédants, donc de personnes qui débutent dans le camping-car, qui étaient hésitantes, qui ne voulaient pas se lancer, qui se sont dit « bon, il faut qu'on profite, on n'a qu'une vie ». Et on franchit le cap, on se lance. On parle totalement d'un boom du camping-car. Nous-mêmes, nous n'attendions pas une telle reprise. C'est assez hallucinant.
Et si vous voulez vous lancer, sachez que la mode cette année, c'est de changer du blanc. Prenez du rouge ou du noir pour la carrosserie. Ça ressort mieux sur le bleu de l'océan.
Et le bleu de l'océan, c'est quand même plus agréable sous le soleil. Tout de suite, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et on retrouve Sébastien Léas.
Cet après-midi est bien ensoleillé et estival sur l'ensemble du pays et seuls quelques petits nuages décoratifs se promènent dans le ciel tout bleu. Assez classiquement en montagne, les nuages bourgeonnent et peuvent donner naissance à des averses sur le sud du Massif central, les Pyrénées et les Alpes du Sud. Ces averses tournent parfois à l'orage cet après-midi. Quelques averses isolées peuvent aussi se développer sur les hauteurs de la Corse. Avec ce soleil radieux, les températures maximales se réchauffent. Cet après-midi, il fait 20 à 30 degrés sur la moitié nord, 26 à 34 degrés sur le sud et jusqu'à 37 degrés sur les régions méditerranéennes. La chaleur va s'accentuer dès demain avec des pointes à plus de 40 degrés sur le quart sud-ouest. Cette chaleur intense va même se généraliser vendredi, journée qui s'annonce particulièrement torride.